aujourd'hui à Washington.
Eric Manilakiza avec vous, Le Monde aujourd'hui du jeudi 10 octobre 2018, édition de 17h30, temps universel. D'abord le sommaire. Au Bénin, procès de l'opposant Sébastien Ajavon qui est condamné à 20 ans de prison. Un gendarme burkinabé tué, 3 blessés au cours d'une attaque à Barani dans l'ouest du pays. En Centrafrique, 95 députés ont lancé une procédure de destitution du président de l'Assemblée nationale. Le président américain Donald Trump a menacé de fermer la frontière sud pour stopper des milliers de migrants venant d'Amérique latine. Riyad, au cœur d'une crise internationale après la disparition du journaliste Jamal Khashoggi. Vous suivrez les sports dans 10 minutes, juste après le journal. De violents combats ont eu lieu mardi entre des soldats de l'armée malienne et des djihadistes dans le nord du Mali, déclenchant une intervention aérienne de la force française Barkhane. Deux soldats maliens ont été blessés pendant les combats. Le bilan est encore incertain. Le point avec notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
Le drame s'est produit à la base de la force Barkhane à Gao. Abdelatif Rafik, c'est de lui qu'il s'agit, est un caporal de la force Barkhane. Il est âgé de 23 ans. Il était membre du 14e régiment d'infanterie de soutien logistique parachutiste de Toulouse. C'est lors d'une opération de maintenance dans un atelier de la force Barkhane à Gao qu'il a été tué. C'est un pneu d'un camion qui aurait explosé de manière accidentelle qui le projetait violemment au sol qui serait la cause de sa mort malgré les soins prodigués par les médecins. Par la même occasion, dans la région de Gao, cette fois-ci à Menaka, des hommes transportant des femmes alors sautent sur une mine. Le bilan fait une femme tuée et 3 autres grièvement blessées, admises toutes au CESCOM de la localité. Boubacar Touré, VOA Afrique.
Merci à Boubacar Touré. Au Burkina Faso, un gendarme a été tué, 3 blessés dans la nuit de mercredi à jeudi au cours d'une attaque contre la brigade territoriale de Barani dans l'ouest du Burkina Faso. Au Bénin, le verdict vient de tomber. L'opposant et homme d'affaires Sébastien Ajavon a été condamné à 20 ans de prison. Son procès s'est déroulé en son absence, comme nous l'a signalé notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé. Nous allons y revenir. La mission catholique du Niger a demandé à ses fidèles d'organiser des prières et de jeûner pour obtenir la libération du missionnaire italien Pierre Luigi Macali, enlevé il y a un mois dans le sud-ouest du pays. Au Sénégal, Human Rights Watch appelle à renforcer la protection des jeunes filles dans les écoles secondaires contre l'exploitation sexuelle à l'école. L'ONG a dénoncé un phénomène présent dans beaucoup de pays africains, appelant le gouvernement à adopter une riposte nationale plus forte contre ces pratiques. Plusieurs femmes ont manifesté aujourd'hui à Monrovia, au Libéria, sous une pluie battante pour réclamer davantage de protection pour les jeunes filles. C'est à la suite du scandale des viols subis par les élèves, souvent mineurs, d'une école dirigée au Libéria par l'ONG américaine More Than Me. Elles avaient été abusées sexuellement par le cofondateur de l'association, décédé en 2016. Le gouvernement de Guinée-Bissau et la Fédération nationale des associations de transport ont signé aujourd'hui un protocole d'accord mettant un terme à la grève qui paralyse le pays depuis mardi. Au Cameroun, des séparatistes anglophones ont enlevé la sœur de Nijon Frundi, président du principal parti d'opposition, le Social Democratic Front. La maison de l'opposant a été incendiée à Baba 2 dans la région du Nord-Ouest, l'une des deux régions anglophones en conflit armé. Toujours au Cameroun, le Conseil constitutionnel camerounais a entamé son 3e jour d'examen des recours post-électoraux déposés après le scrutin présidentiel du 7 octobre. L'opposant Maurice Kamto a contesté la régularité de 32 procès-verbaux. C'est la dernière étape avant que le Conseil constitutionnel n'indique qui est le vainqueur officiel de la présidentielle. Retour sur le Bénin où l'opposant Sébastien Ajavon vient d'être condamné à 20 ans de prison. Ginette Fleur Adandé pour les détails. Ginette. Ginette, l'opposant Sébastien Javon vient d'être condamné à 20 ans de prison, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Sébastien Javon vient d'être condamné à 20 ans de prison assorti d'une amende de 5 millions. Il a été condamné ainsi que les trois accusés, les trois mis en cause qui sont en réalité ses employés.
Merci, Ginette. Nous allons... Oui, Ginette. Nous avons un problème de téléphone avec notre correspondante Ginette Fleur-Adandé. Nous allons y revenir dans les éditions ultérieures. En RDC, le président de l'Assemblée nationale, en Centrafrique plutôt, le président de l'Assemblée nationale, Abdou Karim Mekasoua, menacé de destitution. 95 députés sur 140 ont lancé la procédure en l'accusant de manquement à son devoir et de mauvaise gestion. La conférence des présidents des commissions doit d'abord examiner les motifs avant de porter l'affaire à une session en plénière la semaine prochaine. Cette démarche fait craindre une nouvelle crise politique dans le pays. Sur place à Bangui, Freeman Sipila pour les détails.
C'est finalement jeudi dans la soirée que la demande a été déposée au secrétariat permanent de l'Assemblée nationale pour être transférée à la conférence des présidents des commissions parlementaires. Les 95 députés qui ont signé le document accusent Abdou Karim Mekasoua de manquement à son devoir et de mauvaise gestion. Mathurin Dimbélé-Nakoué, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale.
Quel exemple nous pouvons donner aujourd'hui? Si nous sommes vraiment plongés dans des scandales financiers, administratifs, l'Assemblée nationale est devenue la risée de la population. Alors qu'est-ce que nous allons dire? Quel compte nous allons rendre à nos électeurs?
Dans son discours le 1er octobre dernier, à l'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale en cours, le président du Parlement s'était montré déterminé à affronter ses adversaires, arguant, je cite, que ceux qui veulent lancer la procédure de destitution le fassent. Je suis prêt, je ne suis pas naïf, mais qu'ils le fassent dans la transparence et le respect de la Constitution. Fin de citation. Si cette demande arrivait à être validée, les députés procéderont la semaine prochaine à l'élection d'un nouveau président. Ce climat délétère au sein du Parlement inquiète les Centrafricains qui craignent une nouvelle crise politique dans un pays déjà fragilisé par de nombreuses années de conflits armés. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
RDC, l'unique femme candidate à la présidentielle du 23 décembre, Marie-Josée Ifoku, accusait le pouvoir de Kinshasa de l'avoir empêché de sortir du pays à 2 mois d'un scrutin majeur. Les principaux bailleurs de fonds du Burundi ont appelé son gouvernement à des concertations avec les ONG internationales pour clarifier certains aspects de la nouvelle loi contrôlant strictement leurs opérations. Les activités de ces ONG étrangères sont suspendues depuis le 1er octobre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump menace de fermer la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Des milliers de migrants traversent actuellement l'Amérique centrale à pied dans l'espoir de gagner les États-Unis. Abdulrahman Dia.
Dans un tweet ce matin, le président Trump a demandé au Mexique de stopper ce qu'il appelle un assaut. Et il avertit, s'il n'est pas capable de le faire, je ferai appel à l'armée américaine et fermerai notre frontière du Sud. Donald Trump a également renouvelé dans un deuxième tweet ses menaces de couper les aides financières aux pays d'Amérique centrale concernés. Les migrants venus notamment du Honduras ont traversé le Salvador et le Guatemala. L'assaut sur notre pays, à notre frontière sud, y compris les éléments criminels et les drogues qui affluent, sont beaucoup plus importants pour moi que le commerce, a-t-il écrit. Donald Trump a également visé les membres du Parti démocrate qui veulent, selon lui, ouvrir les frontières et sur lesquelles il a rejeté la responsabilité de lois faibles. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, doit se rendre aujourd'hui et demain au Panama et au Mexique.
Disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Le secrétaire américain au Trésor, Stephen Mnuchin, a annulé sa participation au Forum économique de Riyad. Cette annonce fait suite à une querelle d'annulation de la part de ministres et de chefs d'entreprise renonçant à se rendre à Riyad. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, à l'issue d'un tête-à-tête avec M. Trump dans le bureau ovale, a affirmé que Washington allait donner quelques jours de plus à Riyad pour fournir des explications sur la disparition du journaliste. Il est rentré d'un déplacement en Arabie Saoudite et a fait escale en Turquie. Les dirigeants de l'Union européenne ont annoncé que le premier sommet entre les 28 et les pays de la Ligue arabe aurait lieu les 24 et 25 février 2019 en Égypte. C'est pour parler notamment d'une meilleure coopération contre les migrations irrégulières vers l'Europe. Plusieurs personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées lors d'une fusillade aujourd'hui à l'intérieur du palais du gouverneur de la province de Kandahar. En présence du commandant des forces de l'OTAN en Afghanistan, les talibans ont aussitôt revendiqué l'attaque. Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com. La Muniteco signée Claire Morégibourg.
Air Côte d'Ivoire est une très bonne compagnie qui a un très bon niveau de service, selon les mots de Jean-Luc Mévélec, nouveau directeur régional d'Air France. Air Côte d'Ivoire a accumulé une perte de 65 milliards de francs CFA en 5 ans d'existence. Air France KLM maintient néanmoins son partenariat stratégique avec la compagnie ivoirienne, évoquant une situation concurrentielle compliquée. La compagnie poursuit son expansion en Afrique où elle dessert déjà 20 capitales et a annoncé l'acquisition de 5 nouveaux avions d'ici 3 ans. En Guinée-Bissau, le gouvernement et la Fédération nationale des associations de transport ont signé aujourd'hui un protocole d'accord mettant un terme à la grève qui paralyse le pays depuis mardi. Les grévistes dénonçaient les rackets policiers, l'augmentation des taxes et le mauvais état des routes. Macky Sall, le président sénégalais, a lancé aujourd'hui le projet de développement du tourisme et des entreprises à la station balnéaire de Sali, au sud de Dakar et non loin du nouvel aéroport international. Ce projet bénéficie d'un financement de plus de 40 milliards de francs CFA.
Nous enchaînons directement avec la page des sports. Nicolas Pinot, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Soupçon de corruption dans le foot nigérien.
Et oui, 3 représentants de la Fédération nigériane de football ont été accusés d'avoir détourné 9,5 millions de dollars de subventions de la FIFA pour leur usage personnel. Christopher Ondekin, Jafarou Fadanari Mamza et Rajan Zaka auraient détourné cet argent en 2015 selon une enquête de la Commission des crimes économiques et financiers. La Fédération nigériane de football ébranlée par de nombreux scandales. La FIFA, instance dirigeante du foot mondial, ainsi que la CAF ont appelé à des réformes pour remédier aux divergences au Nigeria.
Autre affaire de corruption, Nicolas, c'est au Kenya, n'est-ce pas ?
Le légendaire athlète kényan Kip Keino et l'ancien ministre des Sports, Hassan Wario, inculpés pour corruption et détournement de fonds lors des Jeux Olympiques 2016 à Rio, se sont rendus à la police conformément à une injonction de la justice. Kipchoge Keino, 78 ans, double champion olympique du demi-fond et ex-président du comité olympique kényan, et Hassan Wario, l'actuel ambassadeur du Kenya en Autriche, ont été inculpés avec 5 autres dirigeants sportifs kényans.
Et l'UEFA enquête sur le match PSG Étoile Rouge de Belgrade.
Oui, l'UEFA a décidé de mandater un inspecteur de sa chambre éthique et discipline pour conduire une enquête lors des incidents au Parc des Princes à l'occasion du match de Champions League entre l'Étoile Rouge de Belgrade et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est poursuivi notamment pour utilisation de fumigènes et troubles à l'ordre public. Cette affaire est totalement indépendante de l'enquête préliminaire ouverte à Paris pour des soupçons de trucage du match par un dirigeant du club serbe qui aurait parié de fortes sommes d'argent pour voir son équipe perdre par 5 buts d'écart.
On termine avec la NBA, championnat de basket nord-américain, Nicolas.
Les Spurs, portés par LaMarcus Aldridge, 21 points, ont débuté leur nouvelle ère par une victoire 112 à 108 face à Minnesota. Pour ses débuts à Charlotte, Tony Parker s'est incliné face à Milwaukee, 112 à 113. Houston, candidat déclaré au titre, a chuté à domicile face à la Nouvelle-Orléans, 112 à 131. Bonne surprise des Knicks de New York qui s'impose face à Atlanta, 126 à 107. Enfin, Cleveland, orphelin de LeBron James, s'est incliné 104 à 116 à Toronto.
C'était les sports de Nicolas Pinot. Merci Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manilakiza. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En République centrafricaine, une motion de destitution est arrivée hier mercredi sur le bureau du secrétariat général de l'Assemblée nationale avec la signature de 95 députés. Ils exigent le départ de Karim Mekasua, président de l'Assemblée nationale. La pétition sera étudiée demain par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale pour analyse et Kia Badou a joint à Bangui Lydie Nzegu Kouma-Guéré, conseillère en communication au sein de l'Assemblée nationale.
95 députés ont donc signé une pétition pour la destitution du président de l'Assemblée nationale.
Alors, est-ce que vous attendiez à cela?
Le bruit courait depuis plusieurs mois, donc de la volonté de certains députés de destituer le PAN. Mais avec toutes ces venues de personnalités pour venir faire une médiation, au sein du bureau de l'Assemblée nationale, je pense que les choses auraient pu trouver une autre issue.
Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé?
Depuis, le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale de celui-ci, donc en mars de cette année, c'est une autre composition. Donc l'ancien bureau était composé de membres du chemin de l'espérance, le mouvement politique qui accompagne le président de l'Assemblée nationale. Celui-ci est beaucoup plus du cœur uni, le mouvement de la majorité présidentielle. Et pourtant, l'ancien bureau qui était acquis au président de l'Assemblée nationale dans le chemin de l'espérance fait aussi partie de la mouvance présidentielle, de la majorité présidentielle. Donc, depuis mars, on a senti ça et là un peu des incompréhensions. Autant le président de l'Assemblée nationale était un peu mis en minorité.
Alors, vous dites qu'il a été en minorité et qu'il y a eu des incompréhensions. Quelle pourrait être l'issue de toute cette histoire?
Demain, cette motion de destitution sera examinée par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale qui va voir si c'est recevable ou pas recevable. Ensuite, la conférence des présidents peut décider qu'il puisse y avoir une concertation ou pas, ou alors aller directement au vote qui sera en plénière à l'Assemblée nationale, en toute transparence, devant la télé, devant la radio. Il faudrait qu'il y ait les 2/3 de la majorité qualifiée des députés pour qu'il puisse y avoir véritablement une destitution. Alors, il y a 4 préalables inscrits dans la Constitution pour qu'il puisse y avoir la destitution du président de l'Assemblée nationale. Les députés examineront si ces 4 préalables sont compris dans la note qui a été déposée hier au secrétariat général de l'Assemblée nationale pour la décision. Maintenant, c'est le droit qui va parler.
Lydie Nzegu Kouma-Guéré, conseillère en communication au sein de l'Assemblée nationale à Bangui.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
En Afrique, la passation de pouvoir de père en fils est devenue monnaie courante. C'est le cas en RDC, où Joseph Kabila a succédé à son père Laurent Désiré Kabila. Au Gabon, Ali Bongo a succédé à son père Ali Bongo Ondimba, tout comme Faure Gnassingbé. Au Togo, qui a succédé à Eyadema en RDC. L'UDPS a vu Félix Tshisekedi succéder à son père Étienne. Est-ce que le procédé est démocratique? Idriss Fall a posé la question à Félix Tshisekedi de passage dans nos studios ici à La Voix de l'Amérique. Suivez.
En tout cas, en ce qui me concerne, c'est démocratique. Parce que je peux parler pour moi. Vous avez parlé de l'UDPS. Je suis arrivé à la tête de l'UDPS par des élections, après la tenue d'un congrès qui a réuni plus de 1000 délégués venus de partout en République démocratique du Congo et même de l'extérieur, de nos représentations à l'extérieur. Donc dans mon cas, je peux parler de régularité parce que j'ai fait mes classes politiques à l'UDPS même pendant plus de 20 ans. J'ai gravi les échelons un à un. Je suis parti de la cellule jusqu'à arriver au niveau national de mon parti. Donc je n'ai rien volé à qui que ce soit. Et je pense que si le peuple congolais, mes compatriotes le veulent, je serai leur président de la République.
Mais la perception, c'est important parce que les gens perçoivent que vous êtes le fils de votre père.
Oui, mais les fils ne sont pas forcément les ennemis publics numéro un. Encore faut-il savoir ce que on a proposé comme héritage reçu de son paternel, on va dire. Donc moi, j'ai eu un père qui a été totalement plongé dans la politique, qui a donné même une partie de sa vie, pour ne pas dire toute sa vie, pour la cause de notre pays. J'ai beaucoup appris à ses côtés et je pense que je suis suffisamment aguerri pour pouvoir faire face à toutes les épreuves qui se présenteront. Je suis quelque part, en tout cas, préparé à cette grande mission.
Pour fermer la parenthèse du père, pourquoi votre papa n'est toujours pas enterré à Kinshasa?
Très bonne question. Très bonne question. Non, ça va bientôt faire 2 ans, au mois de février prochain. Donc on est à 3 mois de la commémoration de du 2e anniversaire de sa mort. Vous faites bien de poser cette question, mais malheureusement pas à la bonne personne. Il faudrait poser la question au régime Kabila qui a complètement gelé ce dossier. Dans quel but, je ne sais pas.
Félix Tshisekedi, de passage à Washington.
Bonjour, c'est Abdourahmane Dia. Je vous donne rendez-vous à 18h temps universel sur VOA Afrique dans votre émission À votre avis, et on va parler du harcèlement sexuel dans les écoles. Des enseignants abusifs et d'autres membres du personnel scolaire exploitent, harcèlent et abusent sexuellement des adolescentes dans les écoles secondaires du Sénégal, selon un rapport de Human Rights Watch. Ce phénomène répandu sur le continent est également connu sous le nom de notes sexuellement transmissibles. Quelle est l'ampleur du problème et comment y remédier? Laissez vos numéros et commentaires sur notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 2633.
En Côte d'Ivoire, plusieurs formations politiques annoncent qu'elles vont déposer des recours devant la Cour suprême en réaction des résultats des élections municipales et régionales du 13 octobre dernier. Des précisions avec notre correspondant de La Voix de l'Amérique à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
Avec 92 communes remportées sur 200 et 18 régions sur 30, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, peut se targuer d'être la première force politique du pays. Mamadou Touré, porte-parole du RHDP.
Nous sommes la première formation politique dans notre pays au regard des chiffres. Nous sommes aujourd'hui la seule alternative en termes d'union et de rassemblement des Ivoiriens. Nous avons été la seule formation à même de placer des candidats sur l'étendue du territoire et nous sommes la seule formation à avoir des candidats élus sur l'ensemble du territoire.
La large victoire du RHDP est cependant contestée par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, qui a remporté 6 régions sur 30 et 50 communes sur 200. Le parti d'Henri Konan-Bédié parle de braquage électoral dans certaines localités. Maître Emile Suibi, l'un des avocats du PDCI.
Les candidats du PDCI-RDA ont été victimes d'un braquage électoral et se sont fait voler leur victoire. Nous allons donc exercer les voies de recours que le code électoral nous donne, c'est-à-dire saisir la chambre administrative de la Cour suprême pour demander l'annulation de ces résultats et la reformation pour proclamer les candidats qui sont effectivement vainqueurs, c'est-à-dire les candidats du PDCI-RDA.
Pour le RHDP, le PDCI est un mauvais perdant qui refuse simplement d'assumer son échec. Mamadou Touré, porte-parole du RHDP.
Il ne faut pas être mauvais perdant et nous avons l'impression qu'il y a beaucoup de mauvaise foi. Très souvent, c'est le plus grand voleur qui crie le premier au voleur. Nous avons aussi suffisamment d'éléments, notamment dans certaines localités, sur les tentatives de fraude venant donc de certains candidats du PDCI. Nous restons attachés à l'état de droit et nous avons, pour ces cas-là, introduit des recours.
À la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, la CNDHCI, on déplore les incidents qui ont émaillé ces élections. Namizata Sangaré, présidente de la dite commission.
La CNDHCI reste préoccupée par ces situations qui font peser de sérieux périls sur la cohésion sociale. La CNDHCI lance un appel à la retenue afin de préserver la paix, la cohésion sociale et le respect des droits de l'homme. Elle invite le procureur de la République à s'auto-saisir de tous les cas d'atteinte aux droits de l'homme afin de situer les responsabilités et d'engager des poursuites à l'encontre des présumés auteurs.
Plusieurs candidats aussi bien du pouvoir que de l'opposition, ainsi que des indépendants, ont décidé de déposer des recours devant la Cour suprême. Les nombreuses contestations liées à ces élections municipales et régionales ont remis au devant de la scène le débat sur la réforme de la commission électorale indépendante. Georges Ibrahim Tounkara, VOA Afrique, Abidjan.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Bénin, le multipartisme intégral adopté en 1990 a permis la naissance de nombreux partis politiques. Ils sont plus de 200 à animer la vie politique dans une confusion qui ne dit pas son nom. C'est donc pour essayer de résoudre le problème qu'interviennent les réformes du système partisan, objet de toutes les récriminations. Pour certains, le président Patrice Talon veut éliminer la concurrence, et pour d'autres, il était temps de mettre un terme aux activités des clubs électoraux érigés en partis politiques. Les précisions de notre correspondant à Cotonou, Gilbert Fleur-Adandé.
L'émiettement du système partisan béninois est entretenu par l'existence de centaines de partis et coalitions de partis politiques. Et pour mériter d'être toujours la vitrine de la démocratie en Afrique, un réaménagement du système partisan s'impose. C'est la raison d'être de certaines des réformes engagées par le gouvernement Talon sur le plan politique. Mais certaines personnes, comme l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Maître Robert Dossou, pensent qu'il n'y a pas de multipartisme restreint.
On peut avoir 500 partis politiques, c'est pas effrayant. Au fur et à mesure, des partis politiques vont mourir. Depuis que le monde est monde, aucune réglementation n'a réussi à limiter le nombre de partis politiques dans un pays démocratique. Ça, c'est une voie qui conduit à la dictature. Je le dis, je le pense. On peut les restreindre par le biais des élections. Alors, laissez les partis proliférer. C'est là le jeu de la liberté totale.
Même analyse de Nouréni Achadé, député de la minorité parlementaire. Pour lui, les réformes du système partisan sortent comme une intention à peine voilée d'écraser toutes les formation politique.
Le parti au pouvoir veut éliminer la concurrence. Et c'est ce qui est dommage dans ce texte. Au moment où FCBE était au pouvoir, si cette loi-là était en vigueur, aucun parti ou peu de partis aujourd'hui seraient représentés à l'Assemblée nationale.
Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Depuis que la conférence nationale a ouvert la voie au multipartisme intégral, les partis sont nés de part et d'autre, mais seulement quelques-uns jouent réellement leur rôle dans l'animation de la vie politique. Pour l'analyste politique Rachid Balogou, il est nécessaire d'arrêter la saignée. C'est primordial pour la sauvegarde des acquis démocratiques. Réforme du système partisan, oui, Célestine Zanou, acteur politique, ancienne candidate aux élections présidentielles. Quel sera le visage de l'animation de la vie politique après les réformes du système partisan? La réponse viendra certainement des élections législatives de 2019 pour lesquelles les états-majors des partis politiques s'activent déjà sur le terrain. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Nous nous excusons de petits incidents techniques dans le reportage de notre correspondante à Cotonou. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de votre écoute à la mise en onde. Joselle de Morissin à la console, Nachwan Kale, Eric Manilakiza à la présentation. On reste en contact sur Facebook et sur votre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. 24 heures sur 24, excellente suite des programmes sur VOA Afrique.